Alors bonjour à toutes et à tous. On va prendre le livre des Actes et continuer notre lecture. Donc on est en Actes chapitre 19 et on va lire à partir du verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. » Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Alors, dans ce livre des Actes, on est vraiment au début du christianisme originel. Donc, c'est le commencement du christianisme, finalement. Et l'apôtre Paul, avec ses compagnons, était en train de propager, de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu, mort crucifié sur la croix, ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et cela, pourquoi ? Pour justifier, pour pardonner, pour sauver ceux qui croient. Et cette foi chrétienne, elle était vraiment révolutionnaire. Jésus a surpris tous les hommes de son temps avec la mise en avant, finalement, d'une loi qui dépassait la loi du talion. La loi du talion qui disait « œil pour œil, dent pour dent ». Voilà, on me fait ça, je rends ça. Mais Jésus est venu, il a dit à ses disciples, « Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous haïssent. Pardonnez ceux qui vous font du mal. » Et ça, c'était un message qui était nouveau. Mais ce message, cette bonne nouvelle de Jésus, elle ne va pas être accueillie avec enthousiasme par les autres religions qui étaient déjà en place. Christ était le Messie d'Israël. Et la solution du judaïsme, enfin le judaïsme n'était pas une fin en soi. Il y avait quelque chose qui suivait. Mais Jésus, eh bien le Messie d'Israël, n'a pas été bien accueilli. D'une manière générale, ça a été le refus, le rejet de Jésus-Christ. Et on peut dire que ce rejet demeure encore aujourd'hui. Il y a une vraie opposition au christianisme. Et j'aimerais prendre cet événement qui est survenu donc dans la ville d'Éphèse pour illustrer cela. Qu'est-ce que c'était finalement que la Diane d'Éphèse ? c'était le culte d'une divinité passée. Donc, cette divinité s'appelait Artémis. Et Éphèse était le centre donc, de cette religion idolâtre du passé. C'était donc une fausse divinité, un faux dieu, une déesse qui était inventée, une déesse qui était mensongère. Et derrière elle, bien sûr, eh bien, se cachait le diable qui veut nous donner des faux cultes, des fausses adorations pour que lui retire de l'adoration finalement derrière tout cela. Et tous ceux qui succombaient au charme de Diane, de la Diane d'Éphèse, eh bien, étaient partis dans l'erreur. Alors quand l'apôtre Paul apporte un message nouveau, celui d'un créateur, du créateur qui a envoyé son fils descendre et prendre une chair comme la nôtre, c'était le message d'un Dieu qui était soudain proche des hommes, qui était venu au milieu des hommes et qui s'était montré d'une manière physique afin que même les hommes puissent le voir, puissent le toucher et connaître quelle était sa nature, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la personne de Dieu. Eh bien, cela, ce message-là, ce Dieu-là, il n'était pas accepté par les défenseurs de la Diane d'Éphèse. Et dans les réactions des habitants d'Éphèse, nous avons comme une réaction possible et malheureusement fréquente face au message de Jésus-Christ et au christianisme, à la foi chrétienne. Il y a un rejet du vrai Dieu et du christianisme, un rejet de Jésus-Christ. Et les adorateurs de cette Diane vont manifester une réaction typique face à la foi chrétienne. Quand il y a une fausse religion et qu'elle se sent menacée, comment réagit-elle? Qu'est-ce qui se passe? Elle va réagir comme les Éphésiens. Alors, il y a une phrase que ces hommes vont répéter inlassablement. « Grande est la Diane des Éphésiens ». J'ai voulu mettre un verset contraire, hein. « Grande est la Diane des Éphésiens ». Et quand on veut se persuader d'une chose et essayer de persuader les autres d'une chose, on la martèle sans cesse, on la répète. Mais cette phrase « Grande est la Diane des Éphésiens » ne prouvait qu'une chose, c'est que cette Diane en fait était petite. Elle était toute petite, insignifiante, inexistante. Alors, quels sont les traits caractéristiques qui se cachent, hein, ou qui cachent le mensonge et l'erreur religieuse? Quels sont les traits caractéristiques qui cachent le mensonge et l'erreur religieuse? D'abord, un trait caractéristique, c'est le commerce qui se cache derrière ce que l'on appelle des supports matériels de la foi. Peut-être vous avez entendu ça. Et on voit ici dans notre texte Démétrius et ses ouvriers qui avaient trouvé un filon qui était très lucratif. Ils fabriquaient des temples ou des petites figurines de cette déesse, Artémis. Donc c'est la déesse de la fécondité. Peut-être vous avez déjà vu cette image, hein, d'une statue avec plusieurs poitrines, hein, voilà, qui exprimaient l'abondance et la fertilité et la fécondité. Et donc Démétrius apportait aux adorateurs de la déesse des supports matériels de la foi, des supports physiques, concrets de la foi qu'ils pouvaient voir et qu'ils pouvaient toucher. Et on voit que l'homme veut sans arrêt rendre la divinité palpable. Il veut la voir avec ses yeux. Alors il faut une statue, il faut une image, il faut quelque chose que l'on va toucher ou que l'on va égrener. Mais finalement, le support matériel de la foi tue la foi. Ça tue la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est justement croire sans voir. C'est croire sans toucher et sans voir. Et Dieu ne veut pas que l'homme se tourne vers des idoles qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont une bouche et qui ne parlent pas. Et on voit la différence ici avec la foi chrétienne authentique. Dans une foi chrétienne authentique, il n'y a pas de statue. Il n'y a pas d'image. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça vient du cœur. Dieu ne fait pas partie de la matière en soi. Il est pur esprit. Et lorsqu'il nous a créés, il a mis en nous un esprit. À son image, comme il est esprit, il a mis en nous un esprit. Alors Dieu veut que nous l'adorions par cet esprit qui habite dans nos cœurs, notre nature, hein, ce que nous sommes. Et la relation vraie avec Dieu, elle est spirituelle. Elle ne s'opère pas par des fioritures, par du matériel, par des supports matériels. Il est écrit que le Seigneur étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'homme. Il n'habite pas dans des temples. Et on a construit des cathédrales immenses. Avec des colonnes, c'est vrai que quand on entre dans une cathédrale et qu'on voit ces colonnes immenses et qui s'élèvent comme ça sur 15, 20 mètres, mais c'est comme si ça nous... Voilà, c'est censé montrer que ça monte jusqu'au ciel. Il y a un sentiment de petitesse quand on est dans ce genre d'endroit. Il y a l'atmosphère, il y a la lumière aussi, l'espace. Tout semble dire « Dieu est ici ». Et pourtant... La Bible dit, Dieu n'habite pas dans des maisons, dans des temples, dans des cathédrales faites de main d'homme. Mais l'homme a besoin de cela. C'est quelque chose qui le rassure quelque part. Mais les lieux spéciaux et les objets spéciaux, tout cela n'aide pas à manifester finalement la foi qui plaît au Seigneur. Et même si autrefois, c'est vrai, Dieu a permis aux hommes de construire un temple, le temple de Jérusalem. Et même Dieu a donné des objets, puisqu'il a donné l'arche de l'Alliance avec les objets qui étaient dedans. Tout cela était transitoire. C'était juste un passage pour nous mener à autre chose. Jésus a dit à la Samaritaine, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu veut des adorateurs en esprit, juste en esprit et en vérité. Alors, eh bien, c'est Dieu lui-même qui a fait disparaître le temple de Jérusalem. Et c'est Dieu lui-même qui a permis qu'on ne retrouve plus tous ces objets. L'arche, les 10 commandements, le vase contenant la manne ou la verge d'Aaron. Il l'a ôté de devant les hommes afin que nous parvenions à l'adorer maintenant en esprit. Et en vérité, rien qu'avec notre esprit. Alors, est-ce qu'on a encore besoin d'un lieu? On a encore besoin d'un objet? La vraie foi n'a besoin de rien. Rien. Parce qu'elle s'approche de Jésus-Christ et la foi rend réel Jésus-Christ. Ensuite, un autre trait caractéristique d'une erreur religieuse, c'est la violence et la persécution. Démétrius et tous ces hommes excités, là, ils vont lever tout. Il va y avoir un soulèvement d'hostilité et de haine à l'égard de Paul et à l'égard du message qu'il prêche. On lit au verset 28 et 29. Regardez. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédonien, compagnon de voyage de Paul. Et on voit ici ce que provoque le message de Jésus-Christ. Soit il est accueilli, il est reçu, et les cœurs se convertissent, ils croient en Jésus-Christ. Soit le message est rejeté, il est hué, il est détesté, et même il amène la persécution de ceux qui le prêchent. Et le mensonge est toujours plein de violence et de haine. C'est là que se trouve le diable, dans la violence et dans la haine. Ça a commencé avec Caïn, qui n'a pas supporté finalement l'adoration de son frère Abel. Et il a tué Abel. Et on peut dire la chose s'est perpétuée au fil des siècles. Aujourd'hui, grâce à Internet, c'est facile d'aller écouter un petit peu ce qui se prêche dans le monde. On peut aller un peu partout et on entend des discours violents, haineux. Et plutôt que d'apprendre à leurs enfants à aimer et à pardonner, on les apprend à haïr et à s'offrir à une prétendue divinité ou un dieu. Au temps du sabre, on tranchait les gorges. Au temps de l'Inquisition, on faisait des bûchers. Et dans nos temps modernes, fait sauter des bombes. Mais on voit, c'est l'erreur et la folie derrière ces religions. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Elles viennent des hommes. Jésus-Christ, lui, il a montré une attitude complètement différente. À une époque où il était facile de donner un coup d'épée, l'époque du Seigneur, Jésus a dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Donc, hors de question de tuer, hors de question de blesser, de haïr, de violenter, le christianisme authentique n'est pas comme ça. Et vous comprenez certainement quand je dis christianisme authentique, ça sous-entend qu'il y en a un qui n'est pas authentique. Hein. Et c'est clair qu'il y a certaines personnes prétendues chrétiens, mais qui ont fait des choses abominables. Ou même, et c'est plus triste, des chrétiens qui marchaient par la chair, et qui ont aussi fait des choses qui n'étaient pas très belles. Mais celui qui aime Jésus-Christ, il va marcher comme Jésus-Christ. Il va agir comme Jésus-Christ. Si on le frappe, il ne va pas rendre coup pour coup. Mais il va faire marche arrière et il va bénir. Il fera même du bien à celui qui ne l'aime pas. Au verset 32, on voit que cette foule criait. C'était le désordre. Combien ça ressemble ici à des émeutes que l'on peut voir dans le monde un peu partout, hein, pour des choses religieuses. L'Indonésie, la Chine, des pays arabes, l'Est de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, l'Inde, le Moyen-Orient. On entend fréquemment plein d'informations comme ça. C'est des cris, c'est de la violence. On brûle des drapeaux pour des choses incroyables. Où on brûle des Bibles. Les chrétiens sont chassés, persécutés, tués. Le mensonge est violent, il est très violent. Mais on voit la différence. La vérité du Fils de Dieu, elle, est complètement différente. Elle se présente sous un autre visage. L'exemple d'un homme qui se laisse prendre et mener comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il s'est laissé frapper. Il n'a rien dit, comme on chante. Hein. Il s'est laissé crucifier, il n'a rien dit. Le prophète Ésaïe a dit de lui, « Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. » Christ ne criait pas dans les rues, parlait. Et c'est ce christianisme-là qui est authentique. Et Paul, disciple de Jésus, ne s'est pas battu. Il ne s'est jamais battu. On l'a battu, oui. 40 coups moins 1, plusieurs fois. Mais lui, il n'a pas rendu les coups. Parce que lorsque la discussion, elle commence à s'animer, lorsque le dialogue n'est plus possible, le chrétien s'efface. Il recule. Plutôt que d'être entraîné dans la spirale de la violence et de la haine, non, il recule. Il préfère fuir. Ça, c'est ce que Dieu attend de ceux qui l'aiment réellement. Verset 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, à noter juste en parenthèse ici, c'est la première fois qu'on trouve le mot « ecclésia » dans le sens d'une assemblée légale. Hein. Le mot « assemblée », c'est « ecclésia ». Et donc, ça a donné l'Église, l'assemblée chrétienne. Hein, ça a été repris par les chrétiens. Et ici, on voit une assemblée qui est désordonnée. C'est la confusion. Les uns disaient une chose, les autres disaient une chose. Et beaucoup ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Et c'est une autre chose que j'aimerais relever, une autre caractéristique de l'erreur religieuse. C'est que beaucoup ne savent pas vraiment ce qu'ils font là. Ils suivent le mouvement, ils suivent la foule, ils suivent finalement celui qui crie le plus fort. Mais ils ne sont pas réellement impliqués. Combien de personnes disent « Ah, moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Je ne suis pas impliqué en fait. » Ou bien lorsqu'on demande « Est-ce que vous allez à l'église ou vous allez dans tel lieu religieux à la mosquée, ou est-ce que vous allez au temple, ou est-ce que vous lisez votre livre, est-ce que vous faites les prières ? » Ils disent « Ah non, ou juste une petite chose. » Ah, moi, je fais juste ça. Donc, ils pratiquent un tout petit peu. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont hérité de leurs parents. Alors, eh bien, peut-être aussi par respect. Hein. Et ils ne savent pas vraiment ce qu'ils croient. Vous en savez parfois plus que sur leurs livres. Et ils ne savent pas pourquoi ils le croient. C'est comme ça. La plupart du temps, ils ignorent ce que contient la Torah. Ils ignorent ce que contient le Nouveau Testament. Ils ignorent ce que contient le Coran. Ils ignorent ce que contient la Bhagavad Gita et plein d'autres livres. Ils sont là parce qu'on les a entraînés là. Tandis que le christianisme authentique, il ne peut faire que des chrétiens pratiquants. Ils sont tous pratiquants, ceux qui sont au Seigneur. Là où est prêchée la foi dans le sang de Jésus-Christ qui lave nos cœurs du péché, il n'y a que des chrétiens qui sont pratiquants. Pourquoi ? Parce que tous ont été saisis par Jésus-Christ. C'est ça qui change. C'est une transformation pas extérieure, mais intérieure. La Bible appelle cela la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu entre dans le cœur de celui qui croit en Jésus-Christ. Et ça, ça change vraiment. Les vrais chrétiens sont des pratiquants. C'est d'ailleurs pour cela que le vrai baptême, le baptême, n'est jamais un baptême d'enfant. Il n'y a pas de baptême d'enfant, de bébé, dans la Bible. Jamais les Écritures n'en parlent. Pourquoi ? Ça n'existait pas dans le christianisme primitif. Parce que la vraie foi, c'est un engagement de quelqu'un qui est responsable, qui a conscience de ce qu'il fait. Il croit en Jésus-Christ. Il le reçoit dans son cœur volontairement, en se repentant de ses péchés. Et après, il se fait baptiser. J'ai cru, j'aime Jésus, je me fais baptiser. Versets 33 et 34. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous, d'une seule voix, crièrent pendant près de 2 heures. « Grande est la Diane des Éphésiens !» Alors, qui est cet Alexandre ? On ne sait pas vraiment. Il est peu probable que ce soit Alexandre le forgeron que l'on retrouve plus tard dans une épître. Est-ce que c'est la communauté juive qui a choisi Alexandre, qui a voulu le pousser en avant pour essayer de se dissocier un peu de Paul et des chrétiens ? Ou bien est-ce que Alexandre était un juif converti ? En fait, on ne le sait pas. Mais j'aimerais relever une autre chose ici. C'est que dès qu'ils ont reconnu qu'il était juif, il y a eu une réaction, personne n'était disposé à l'écouter. Sa parole n'avait aucune importance. On le repoussa en quelque sorte avec ses cris « Grande est la Diane des Éphésiens !» Et c'est une autre caractéristique aussi d'une religion de l'erreur. C'est le mépris et le rejet du juif. Et on peut dire le diable est profondément antisémite. Et il pousse à l'antisémitisme par le biais de religion. C'est tragique, mais c'est une réalité. La vérité n'est pas là où il y a de l'antisémitisme. Ce n'est pas un hasard s'ils sont rejetés depuis toujours, on peut dire. Ce n'est pas un hasard si on les a calomniés en inventant des livres comme les Sages de Sion ou d'autres livres où on est en train de supputer des choses sur une domination mondiale. Ils sont haïs par le monde parce qu'il y a le diable aussi qui est derrière. Mais un christianisme authentique ne rejette pas le juif. D'abord parce que il va rejeter personne. Hein? Il n'y a pas de racisme. Le Seigneur veut qu'on aime tous les hommes. Et puis aussi parce qu'on n'oublie pas que tous les écrits, pratiquement, ont été écrits par des Juifs. Et que le salut nous vient des Juifs. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur, était Juif. Et on peut ajouter qu'une religion de l'erreur ne voudra jamais réellement écouter le Juif Jésus. On ne veut pas l'écouter. C'est incroyable le nombre de religions qui font allusion à Jésus-Christ. On va essayer de s'appuyer dessus. Même en Orient, il y a l'esprit christique. Voilà, il faut qu'on mette Christ un peu partout parce qu'il y a quelque chose là, c'est la vérité. Donc l'esprit christique. Pour les autres, c'est un grand prophète. Pour les autres, même parfois, c'est le Fils de Dieu. Mais si on regarde bien, on voit qu'une fausse religion ne cherche pas à être attentive aux paroles de Jésus-Christ. Elle ne veut pas vraiment écouter ce juif, Jésus-Christ. Soit on lit d'autres choses, d'autres livres, d'autres révélations, soit on lit rien du tout, on ne lit rien, mais on ne veut pas écouter Jésus-Christ. Mais le christianisme, c'est justement s'attacher à la parole de Dieu et la garder dans son cœur. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, si vous aimez Jésus-Christ, vous garderez ma parole. Et mon Père vous aimera. Et nous viendrons chez vous. Et nous ferons notre demeure chez vous, dans votre cœur. Si vous aimez Jésus-Christ, vous allez serrer la parole de Dieu dans votre cœur. C'est ça la caractéristique d'un vrai chrétien. Il aime la parole parce que la parole change sa vie. L'a bouleversée et change sa vie. Est-ce qu'on la garde réellement? Est-ce qu'on la lit chaque jour? C'est ça la différence entre la vérité et l'erreur. La vérité, elle se trouve dans les paroles de Jésus. On veut en faire son pain, sa nourriture. La vraie foi ne repousse pas Jésus, le Juif. Mais j'aimerais relever une deuxième chose dans ce verset 34. C'est qu'ils se mirent à crier d'une seule voix pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens ». C'était comme un mantra, inlassablement. Ils crièrent cette phrase, ça devient presque rituel. Et il la répète, il la répète, il la répète encore. Et là où il y a l'erreur, il y a une répétition de phrases et de mots. C'est en boucle, au point même que ça peut nous amener à comme un état un peu second. On est présent, mais on n'est plus vraiment là. Alors, on va même céder de perles ou de cailloux, de choses pour compter et remplir son dû. Ce que l'on doit de répétition offerte à la divinité. Mais Jésus-Christ a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Plusieurs ont donné cette traduction des palabres, ou bien des vaines redites, des répétitions inutiles. Un évêque de l'Église, donc, on remonte 1600 ans en arrière. Il a dit, donc l'Église primitive, il a dit, « Il n'y a pas dans l'oraison beaucoup de mots, mais beaucoup de prières, si le cœur y persévère avec ferveur. » Dans la prière, dans l'oraison, il n'y a pas beaucoup de mots, mais il y a des prières. C'est-à-dire, on demande, c'est des requêtes. « Seigneur, j'ai besoin. » Ce n'est pas juste des mots que l'on répète. Et il faut certainement faire la différence entre une prière qui est une demande claire, intelligente, explicite, et puis des mots qu'on va répéter machinalement et qui reviennent et reviennent encore. Dieu est une personne. Dieu est une personne et il attend à ce qu'il y ait un dialogue entre nous et lui. Il veut qu'on lui demande ce que l'on a sur le cœur. Si tous les jours, je vous dis une phrase, et je vous la dis 15 fois, 20 fois, enfin, vous allez me regarder en disant, bon, t'as un problème, toi. Dieu veut qu'on ait un dialogue avec lui. Et quand il donne un exemple de prière, c'est un exemple. C'est pour qu'on tire la substance de la prière, de l'exemple, et qu'on puisse l'exprimer dans nos mots, plutôt qu'on la répète un million de fois. Paul a dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, pas en me déconnectant. Et il faut regarder et chercher à voir l'enseignement finalement de tel maître, tel grand homme de piété, tel prophète. Quel est son enseignement? Est-ce que il enseigne une répétition sans intelligence? C'est là où on voit l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Verset 35. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « Hommes éphésiens, Quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Alors le secrétaire, là, pardon, il semble que ce soit le maire de la ville, un peu comme le maire. Et cet homme va savoir comment parler à ces gens. Il connaît bien sa ville, hein. Il va savoir les prendre dans le bon sens du poil pour réussir à apaiser et à calmer tout le monde. Et il dit une chose intéressante, il dit « La ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. » Donc ça signifie que l'on gardait quelque chose comme venant de Diane elle-même. C'était tombé du ciel pour eux. Et on voit que le mensonge est souvent entretenu par des objets que l'on prétend venir directement de la divinité. Ils sont tombés du ciel pour nous, c'est Dieu qui l'a envoyé. Je lisais par exemple que c'était le cas pour le Palladium de Troie, qui était une statue, pour la Diane de Tauris, ou pour le Palace d'Athènes. Donc c'est quelque chose d'assez commun, hein, finalement, dans le monde, de recevoir quelque chose du ciel et penser que ça vient de Dieu. C'est une pratique qui vient aider les hommes à croire dans le pouvoir de cet objet mystérieux, de la statue ou de la météorite. Parce que souvent, c'est une météorite. Alors, comment ne pas penser à la pierre noire, hein, à la Mecque, Kaaba. Ou bien, penser aussi, mais bon, quoique, vous savez, Joseph Smith, le mormon, il dit qu'il a eu des tablettes directement venu du ciel. On n'a jamais trouvé les tablettes. Hein. C'est pour ça que c'est un peu... J'ai lu par contre qu'on a retrouvé une statue tibétaine qui représente une sorte de Bouddha, un guerrier mongol, ou bien un guerrier mongol, on ne sait pas trop. Mais la particularité, c'est qu'elle fait 24 cm, donc elle est toute petite, et elle fait 10 kg. Et en fait, en l'analysant, on a vu qu'elle était très très dense, hein. Qu'il y avait des métaux dedans, et on est sûr que c'est une météorite. Ça vient d'une autre planète. Hein. Et donc, probablement, c'est tombé, ils l'ont prise, ils en ont fait leur dieu. Hein. Et puis voilà, encore un exemple, on vient vénérer un simulacre tombé du ciel. Mais la vraie foi, elle ne se fonde pas sur un objet mort, mais sur une personne vivante, qui a vécu parmi nous, qui est morte, mais qui est ressuscitée, qui vit encore au ciel. Dieu n'a pas envoyé un caillou sur la terre et les météorites qui tombent du ciel ne viennent pas du ciel, de Dieu. Mais Dieu a envoyé son propre Fils qui, lui, est descendu. Et quand il est venu de la présence même de Dieu. Et ceci afin qu'on l'entende et qu'on puisse croire en lui. Alors, la grande Diane d'Éphèse qui suscitait tant de cris, tant de colère, tant d'agitation, était en fait une petite divinité, mais sans aucun pouvoir. Et plus il criait, plus cela montrait c'était un faux Dieu, que c'était un faux Dieu. Jésus, lui, n'a pas rassemblé d'émeutiers, il n'a pas provoqué d'attroupement, il n'a pas exhorté ses disciples à la haine. Aucun d'entre eux ne cherchait à porter l'épée, mais pourtant, ils ont bouleversé le monde. Et comment ? Par un témoignage qui était pacifique, qui était tolérant, bienveillant, ils ont répandu le message de Jésus-Christ. C'est intéressant de voir ce que dit ce secrétaire d'Éphèse au verset 37. Il dit « Car vous avez amené ces hommes » qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Intéressant. Et puis un autre élément, il y a ces asiarques qui ont voulu protéger Paul en lui disant de ne pas aller au théâtre. Qu'est-ce que c'était que les asiarques ? En fait, c'était des citoyens qu'on reconnaissait comme les plus honorables de la ville et qui étaient choisis pour un an pour présider aux jeux qui était fait en l'honneur des dieux, etc. Donc, c'était les Asiarques, des personnes respectables hein, et respectées dans la ville. Et Paul les avait pour amis, certains d'entre eux. Ils avaient, même ces Asiarques avaient envie de le protéger. Pourquoi ? Parce que Paul n'était coupable ni de sacrilège, ni de blasphème. Et on voit par cela que l'apôtre était plein de respect. Il disait la vérité, sans aucun doute. Hein. C'était bien pour cela qu'il voulait soulever la ville. Il enseignait la vérité. Il ne cachait pas que les idoles, ce n'était rien. Qu'il n'y avait pas de dieu ou de déesse ou de saint qui écoutait derrière. Mais il l'enseignait sans offenser, avec la sagesse de Dieu, parce qu'il voulait gagner le plus grand nombre. Et on voit ici un aspect de la tolérance et du respect. Paul ne prêchait pas la haine des adorateurs de Diane. Non, il prêchait la vérité de Jésus-Christ. Et c'était la vérité de Jésus-Christ qui gagnait les cœurs. Pour conclure, il y a une vraie différence entre une religion qui prône la haine, la violence, les cris, l'antisémitisme, une religion qui va s'attacher à des objets venus du ciel ou fabriqués par l'homme, une religion qui va produire des non-pratiquants, une religion qui invite à répéter des litanies et des prières sans fin. Il y a une vraie différence entre cette religion-là et celle de la foi en Jésus-Christ. L'Évangile nous invite à prier, à parler à un Dieu personnel qui entend et répond. Pas besoin d'objet, pas besoin de lieu, puisque Dieu est esprit. Pas question de violenter ou de haïr, parce que Dieu est amour. Et Dieu pousse ses vrais enfants à être un reflet de lui-même. L'Évangile nous lie à Jésus, le Juif. L'Évangile nous transforme et nous pousse à écouter ses paroles, parce que ses paroles nous font du bien. Elles nous ressourcent, elles nous sanctifient. On peut parfois se demander, mais pourquoi il y a tant de religions sur la terre ? N'y a-t-il pas qu'un seul vrai Dieu ? Pourquoi il y a tant de religions qui sont différentes et qui prétendent tous mener à Dieu ? Et on peut regarder ça comme un vrai problème. Mais l'une des raisons, c'est que ça permet un contraste entre la vérité et l'erreur. À côté de l'erreur, eh bien, on voit où est la vérité. Et j'aimerais terminer avec une question. Est-ce qu'on voit la différence dans notre vie ? Est-ce qu'on voit la différence ? Est-ce que la vérité tranche par rapport à l'erreur ? Dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans notre vie ? On va s'incliner dans la prière.